Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes orphelins de Catherine Ney qui nous abandonne ce week-end exceptionnellement. Mais je suis bien entouré avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous trois.
Bonjour, bonjour Pierre.
Au sommaire de cette émission, un sondage Ipsos, mais Zemmour a 15% d'intention de vote au premier tour. Il écrase n'importe quel candidat de droite dans toutes les hypothèses. Chez les Républicains, les militants ont choisi d'enterrer la primaire. Place aux opérations séduction pour allier Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Pour rallier un maximum de soutien à leur cause avant le congrès du 4 décembre. Quant à Édouard Philippe, il se dit toujours loyal à Emmanuel Macron, mais donne quelques conseils budgétaires non négligeables. L'onde de choc de cette semaine à droite, c'est également cette condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy à un an de prison ferme dans l'affaire Big Malion. Sa famille politique exprime son soutien, comme le Premier ministre sur TF1 et l'ancien président de dénoncer un droit bafoué. La République des juges a-t-elle encore frappé ? Quelles conséquences pour LR à 7 mois de la présidentielle ? Nous posons la question aux grandes voix. Et puis alors qu'on tombe nez à nez avec une nouvelle affaire Mitterrand, une jeune femme d'à peine 30 ans aujourd'hui, qui aurait été sa maîtresse dans les dernières années de sa vie. Que se passe-t-il à gauche ? Qui croit encore à un sursaut du Parti Socialiste avec la candidature d'Anne Hidalgo ? Yannick Jadot, candidat officiel des Verts, ne va-t-il pas plomber cet élan ? Vous avez le programme, les grandes voix, ça commence. Et l'onde de choc d'hier soir, c'est donc ce sondage Ipsos, publié ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France, donnant Éric Zemmour à 15% d'intention de vote au premier tour, 15% d'intention de vote dans tous les cas de figure, que ce soit Barnier, Zemmour à 15, Barnier à 11, Pécresse, Zemmour à 15, Pécresse à 12, ou même Bertrand, Zemmour à 15, Bertrand à 14, Zemmour siphonne les voix de droite et d'extrême droite, puisque Marine Le Pen se retrouve à 16%, alors qu'elle était à plus de 20 il y a encore peu de temps. Zemmour monte, jusqu'où ça va aller ?
Écoutez, ça va aller encore, je crois, nettement plus haut. Pourquoi ? Parce que les raisons qui font qu'il monte, qu'il a doublé en gros son périmètre en 2 semaines, il est passé de 5-6 à 15, donc c'est même pas doublé, c'est triplé. Triplé donc son périmètre. Les raisons, donc il y a 2 choses essentielles. Il y a effectivement qu'il continue de développer une argumentation en disant tout haut ce que beaucoup de gens, depuis des années, susurraient ou pensaient très fort, mais n'osaient pas dire tout bas. Donc, il dit ce que les gens pensent dans la majorité à droite. Je parle de la droite. Il y a des tas de gens de gauche qui ne pensent pas du tout cette chose-là, et Michel va nous le rappeler. Mais à droite, il y a cette idée qu'enfin quelqu'un dit « le roi est nu », et dit un certain nombre de vérités. Donc ça, il y a
mais
pas
c'est
de
une pensée universelle, alors, universelle, oui, dans toute la droite ?
Dans une grande partie de la droite, et dans toutes les droites. Alors je ne vais pas reprendre les droites de René Raymond, mais dans la droite populaire, comme dans une partie de la droite bourgeoise, où c'est vraiment, il y a un discours qui porte, qui est celui-là. Donc il peut continuer à monter. Il était le troisième homme, comme on dit, de chez Graham Greene. Le troisième homme était aujourd'hui troisième. Il y a toutes les raisons de penser que le troisième homme peut devenir deuxième dans les 2 semaines qui viennent. Pourquoi ? Parce que quand on est à 1 point de Marine Le Pen, et quand on voit que Marine Le Pen, elle est dans un phénomène que il y a deux semaines, j'ai dit, elle pourrait dévisser. Aujourd'hui, je dis, elle dévisse. Mmh. Ça veut dire clairement qu'elle est sur une courbe, une pente descendante. Et quand on est en politique sur une pente descendante, c'est très difficile de remonter le courant. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne remontera pas. On est à 7 mois. Faut toujours penser ça, on est à 7 mois. Il y a entre-temps beaucoup d'événements qui peuvent arriver. Mais quand même, pour l'instant, elle est dans une pente et je pense que Zemmour va passer Marine Le Pen dans les 2 semaines qui viennent.
Michel Cotta.
Enfin, on en est moins sûr, de toute façon, les sondages. Précaution d'usage à prendre sur les sondages, bien sûr. Enfin, il y a une dynamique. Une dynamique Zemmour. Et moi, je crois qu'elle n'est pas qu'idéologique. Idéologiquement, c'est vrai qu'il n'a pas changé, et qu'il n'a pas changé d'ailleurs depuis 10 ans. Elle est surtout, je trouve, stratégique. C'est-à-dire en attaquant à la fois frontalement Marine Le Pen, lorsqu'il dit qu'elle ne sera pas élue, il touche en réalité tous les proches de Marine Le Pen qui se disent, après tout, est-ce qu'elle en est capable, etc. Et puis en attaquant
Des politiques de déstabilisation.
Ouais, on a, et ils déstabilisent aussi les Républicains. Mmh. Parce qu'on voit très bien, les Républicains, une partie dit « faut parler avec lui », l'autre dit « non, faut pas parler ». Christian Jacob qui dit « il faut pas parler », le premier à parler avec lui. Il y a vraiment une espèce de on a l'impression d'un affolement des Républicains. Et pourquoi ? Parce que les Républicains sont, on sait bien que les Républicains sont divisés, je ne dirais pas comme Gérard, que toute la droite la droite est divisée, par conséquent, ils l'attaquent. Le Rassemblement national, ils divisent la droite. Oui, c'est vrai.
Opération gagnée.
Et en plus, les gens détestent les partis. On vient d'avoir des dernières études, des dernières enquêtes sur les partis politiques. Bon, les partis politiques, c'est terminé. Alors, il faudra voir ce qui les remplace. Mais en plus, ils jouent sur cette dynamique. Les partis politiques, on n'en veut plus. Il n'y a que les individus qui peuvent changer les choses.
Opération de déstabilisation. C'est d'ailleurs une technique militaire, mon cher Charles Villeneuve.
C'est un... Oui, enfin, il faut raison garder par rapport, si vous voulez, à la différence qui existe. Gérard, Michel l'ont souligné, les uns par rapport aux autres, ils sont tous à un point, deux points. C'est la marge d'erreur, ce que les sondeurs appellent la marge d'erreur. Mmh. C'est la raison pour laquelle il faut voir si c'est durable. Gérard disait tout à l'heure qu'il est dans une dynamique qui fera que, étant à un point de Marine Le Pen, il va passer Marine Le Pen. Le phénomène nouveau, si vous voulez, dans le triplement de son score par rapport au début, c'est que près de 25% des électeurs de François Fillon de 2017 ont rejoint Zemmour. Mm. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'architecture de l'élection présidentielle de 2017, par la présence au premier tour de Zemmour, est ébranlée. Mm. Et c'est le phénomène nouveau pour moi, si vous voulez, avec l'accentuation de sa dynamique. Est-ce que c'est durable ? Évidemment, beaucoup rappellent le score de Jean-Pierre Chevènement qui était monté à près de 15 points et qui était, le jour de l'élection du premier tour, était retombé à 5 points. Mmh. Ça, c'est une manière de se rassurer. Ça vient surtout d'un certain nombre de députés de la Macronie. Chacun se rassure comme il peut. Mais là, manifestement, il n'y a pas que son livre qui se vend comme les chocolats à Pâques. C'est vrai. Mais il est dans une véritable dynamique et il a ajouté à ses arguments sur l'immigration, il a ajouté l'État-providence. Et je pense que c'est ce qui a principalement ramené les électeurs de François Fillon autour de Zemmour.
Gérard Carreau.
Oui, on le compare. Alors c'est toujours... Là, Charles vient de rappeler l'exemple Chevènement. Il y a des choses à prendre dans cette comparaison-là. Il y en a d'autres qui sont très différentes. Moi, j'ai tendance à voir deux comparaisons à ce stade. Hein, ça peut peut-être bouger, mais la première comparaison, c'est celle effectivement avec Macron, en disant après tout, regardez, revivez 2017, les partis politiques étaient tourneboulés, et du coup, Macron est arrivé en disant qu'il allait faire une rupture, qu'il allait tout changer. Il y a quelque chose, c'est vrai, la nouveauté. Tout d'un coup, quand on vous dit depuis 4 ans, vous allez vous faire un deuxième tour, Macron-Le Pen, tout le monde en avait marre, tous les sondages le montraient.
C'est Raphaël Nadal contre Roger Federer.
C'est rafraîchissant, tout d'un coup, il y a un nouveau, etc. Donc, ça joue aussi. Bon, et j'ai pas dit tout à l'heure aussi, l'une des causes, c'est quand même l'exposition médiatique considérable. Parce que depuis qu'il fait plus une télé tous les jours, où il était sur CNews, il fait plus de télé que jamais. Donc, ça joue quand même un rôle.
Il est plus attendu. Aussi.
Donc, il y a ça. Mais moi, la deuxième comparaison, je maintiens que la vraie comparaison, la comparaison n'est pas toujours raison, mais ce qui le rapproche le plus, c'est quand même celle avec Trump. Il y a effectivement, sur la méthode tactique, c'est plus Macron, mais sur le fond, moi j'ai tellement entendu, pendant des mois, les primaires républicaines, et puis l'élection, et puis... Qu'est-ce que disait Trump ? Le fond sociologique et la base politique, c'était le Trumpisme, c'était notre pays fout le camp, notre pays va mal, les politiciens l'ont démoli, vous êtes fiers d'être américain et vous êtes tous les jours, vous avez le sentiment de plus être chez vous en Amérique, la classe moyenne, il n'y a plus le rêve américain. Il a martelé ça et il a été élu pour ça. Je dis pas, attention, je arrête ma comparaison, je dis pas que Zemmour va être élu, mais je dis que la base sociologique, c'est ça. C'est tout d'un coup ce ras-le-bol d'une très grande partie de la population qui fait comme Trump.
Oui, alors, il faut remarquer aussi, Gérard, je me souviens, puisque je suis témoin, Gérard n'était pas tombé dans le piège classique par rapport à Trump et me signalait qu'en réalité, c'était une lame de fond. C'est vrai. Mm. Bon. Mais il faut remarquer qu'à l'autre bout de la chaîne, par rapport à ce sondage, notamment, Macron réussit une véritable performance. Bien aussi. Sûr. Il y a longtemps qu'un président de la République en place, oui, aux manettes, qui dirige le pays, n'a disposé d'un socle qui rassemble 40% de popularité dans la dernière année de son mandat.
Exactement.
De son premier mandat. Et Macron fait 25 points au premier tour. Mm. Et donc, il y a là un phénomène aussi qu'il faut souligner.
Michel Cotin.
Oui, moi, je souligne peut-être ce phénomène, mais j'en vois un autre que personne ne semble voir et qui, moi, me touche beaucoup.
Suspense.
C'est-à-dire que si vous additionnez maintenant les voix de Zemmour et les voix de Marine Le Pen, vous arrivez à un très haut score
de
ce qu'on peut appeler l'extrême droite. On arrive à 31, 32. Donc évidemment, quand
non,
ils sont divisés...
Pas, il n'y a pas, pardon de te couper, Michel, il n'y a pas que l'extrême droite dans les électeurs, en tout cas sur les intentions de vote.
Il y a des représentants de voix de droite du gouvernement.
Il n'y a pas non plus que de l'extrême droite derrière Marine Le Pen. Je veux dire que l'addition des deux reste quand même phénoménale. C'est-à-dire qu'on peut se demander si d'une certaine façon... Édouard Zemmour n'est pas le réservoir de voix qu'attendait au deuxième tour Marine Le Pen. Donc c'est celui qui arrive le premier, évidemment, qui bénéficie du rapport de voix de l'autre. Ouais. Mais, du rapport de voix. Mais enfin, il y a une volonté, il y a nettement quelque chose qui, ou de nouveaux électeurs, ou des électeurs qui se déplacent sur les deux.
Mais l'addition des trois, si tu mets les trois, si tu rajoutes les candidatures républicaines, tu dépasses les 45%. C'est ça aussi qui montre que le pays est à droite.
On va reprendre les chiffres et les lettres dans une poignée de secondes. A tout de suite avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta. Que va faire la droite avec ce nouveau sondage donnant Éric Zemmour à 15%? Zemmour se disant l'héritier du RPR, l'héritier de De Gaulle. Zemmour qui a apporté lui aussi son soutien à Nicolas Sarkozy après sa condamnation. La primaire, la droite n'en vend plus. Chacun de son côté, c'est ça la nouvelle stratégie de la droite?
Non, ça ne devrait pas l'être. Il y avait au contraire une stratégie.
Michel Cotta.
Dieu sait que... Ils ont vraiment préparé leur stratégie. On a demandé un rapport à Leonetti pour savoir comment il fallait choisir les candidats et qui étaient. Et puis après, on a fait un grand sondage pour savoir qui était, si quelqu'un sortait du lot. Bon, personne sort du lot. Aucun des trois essentiels.
On a juste la stratégie au jour le jour, là.
Donc là-dessus.
Un peu plus Bertrand.
On fait un peu plus Bertrand que les autres, c'est sûr. Mais là-dessus. On décide de faire, la droite décide de faire un congrès en décembre. Bon, avec un tas de trucs, de réunions intermédiaires. Bon, et surprise, Xavier Bertrand, qui semblait à un moment donné pouvoir accepter ce congrès, reste sur ses positions et dit non, moi je reste sur mes positions, je ne me trahis pas, la rencontre d'un homme et d'un peuple, etc. Donc maintenant, on est presque ramené à l'équation précédente au moment où on pensait qu'il y avait une procédure de désignation. On l'a trouvée tardive, certes, mais là, pour le moment, tout le monde est à zéro. Retour à zéro pour la droite républicaine.
Plouf, plouf. Oui, alors moi j'accuse... Je vais faire du Zola des grandes voix. Là. Je vais faire
ça
du Zola
rien.
Du climatin. Je ne vais pas vous faire...
Accrochez-vous.
Je ne vais pas vous faire l'énumération, mais je pourrais la faire. J'accuse le général machin, le général truc, le général... J'accuse tous les généraux, effectivement, de la droite dite gouvernementale ou de la droite qui a gouverné la France depuis un certain nombre d'années, d'être en train, alors là, mais vraiment, consciemment ou inconsciemment, de faire totalement le jeu d'Éric Zemmour. En plus des raisons objectives, dont j'ai essayé, et mes camarades aussi, de donner quelques raisons objectives. Il y a une raison qui n'est pas objective, qui est la tactique des autres. Parce que dans une bataille, il y a ce qu'on fait soi-même et ce que font les autres. Ce que font les autres, quand on écrira la chronique de la campagne, quand il y aura quelqu'un qui prendra sa plume, peut-être Catherine Ney pour le raconter dans un volume ou Vouchel, mais on dira, mais ils ont été les plus imbéciles possibles. Quand vous voyez qu'ils vont attendre là, le 4 décembre, c'est-à-dire attendre le moment où probablement, si on suit ce que j'ai esquissé tout à l'heure, probablement Zemmour sera en tête et sera déjà sera en tête à droite, oui, en tête
l'homme
à droite,
providentiel.
Sera en tête à droite, et dans ce cas-là, on aura bonne mine d'aller chercher entre M. Barnier, Mme Pécresse, M. Bertrand et tutti quanti, mais enfin, ça sera les trois premiers que j'ai cités, on va aller chercher un candidat. Mais l'opinion, elle a déjà décroché. L'opinion, ça l'intéresse déjà plus. Ils ont tout fait pour se mettre dans une situation impossible, et je ne comprends pas. C'est du sabotage. C'est du sabotage de la droite, mais et il faudra qu'ils en rendent compte.
Parce que Gérard, c'est aujourd'hui Charlie un Mille. Rassemblement d'élus locaux qui veulent survivre par rapport au fief qu'ils possèdent. Et ils ne vont pas plus loin. Et ils ont en face d'eux un homme sur lequel il faudrait revenir sur une ou deux fautes qu'il a pu commettre, notamment par rapport à la France vichiste, Zemmour, il faut en parler.
Oui, oui, on parle.
Il faut en parler.
Ça a été dit au grand rendez-vous dimanche dernier.
Oui, alors, qu'est-ce qu'il veut faire au juste? Il veut faire une union des droites, pas autour du Rassemblement national. Il tire la conclusion que le slogan politique des LR, des Républicains, ni Macron, ni Le Pen, les mène à une impasse. Et que pour en sortir, il faut faire ce que François Mitterrand a réussi à gauche, c'est-à-dire faire l'union de toutes les gauches, ce qu'avait fait Mitterrand, faire l'union de toutes les droites, y compris les plus extrêmes. C'est ça, son plan. Et c'est la raison pour laquelle il se réfère au RPR et aussi à l'UDF, c'est-à-dire ce qu'ils avaient réussi à un moment donné.
Oui.
Bon, et lui, c'est ce qu'il veut faire. Simplement, il faut qu'il ajoute à son palmarès de propositions, évidemment, un jour ou l'autre, des véritables propositions par des solutions, même si une grande partie de l'opinion publique aujourd'hui savent que les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent, parce que très rarement les promesses sont tenues
d'ailleurs,
au cours du quinquennat.
Tous les candidats en
Michel
font. Alors, c'est un, il faut se demander, pardon, mais qu'est-ce que c'est que la droite républicaine aujourd'hui? Quand même, elle est très coincée entre une partie, on l'a oublié, mais enfin, une partie, et a déjà choisi le camp de Macron. Ils sont au gouvernement, les lois. Bruno Le Maire est le plus grand défenseur de Macron, etc.
Gérald Darmanin.
Donc déjà, il y a une partie qui est partie. Ensuite, il y a la concurrence de la droite, de l'extrême droite, évidemment. C'est-à-dire qu'ils sont finalement dans un... Moi, je pense que tous les Républicains... contrairement à ce que tu sembles dire, ne sont pas tentés par l'extrême droite. Il y en a une partie
sûrement. D'abord, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est les gens qui, aujourd'hui, se réclament de Zemmour, dans les sondages, sont des gens d'extrême droite? C'est là que tu continues une erreur idéologique totale. Ils ne sont pas du tout... Il y en a d'extrême droite. La plupart sont de droite. Ils ne sont pas d'extrême droite. Ça, c'est la valise. C'est la valise dans laquelle...
C'est
la valise dans laquelle la gauche essaye d'enfermer Zemmour.
Si je peux finir, je pense que déjà la base de la droite républicaine a été réduite et qu'elle l'est encore plus, en effet, par Zemmour.
Voilà. Oui, non, avez, parce avez... que et d'ailleurs on voit que le président de la République a compris qu'une partie des républicains, une partie des électeurs des républicains, on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit, notamment ceux qui avaient voté François Fillon, ont aujourd'hui pris pour argent comptant l'idée que développe Zemmour, et je pense qu'ils ont raison, c'est l'identité de la France. Et la preuve, c'est qu'il a pris une décision qu'aucun président de droite, ni de gauche d'ailleurs, n'ont pu prendre jusqu'à présent, c'est-à-dire de diminuer les visas de sortie accordés par la France, aussi bien en Algérie, au Maroc qu'en Tunisie. Et c'est bien parce que l'idée développée du grand remplacement par Zemmour est rentré dans la tête de beaucoup d'électeurs qui ne sont pas obligatoirement d'extrême droite.
Alors écoutez, j'aurais du mal
en,
là.
En quelques secondes, s'il vous plaît.
Non, mais on aurait du mal quand même. Eh ben, pensez que Zemmour est à gauche.
Alors, juste après la pause. Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est les grandes voix, ça continue, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta et Édouard Philippe. Bah, Édouard Philippe continue à soutenir celui auquel il voue une véritable loyauté, Emmanuel Macron. Il le redit dans Challenge, loyal et libre, mais il n'empêche que l'ancien Premier ministre sonne l'alerte. La dette risque de nous coûter cher, il appelle à sa diminution, ce qui demande constance et courage, dit-il. Ça passe par l'exigence de faire la réforme des retraites, avec obligatoirement le report de l'âge de départ à la retraite, peut-être jusqu'à 67 ans, par le fait de contenir les dépenses publiques et par le nombre d'emplois de fonctionnaires. C'est un nouveau pavé dans la mare, signé Édouard Philippe, ça, Michel Cotta.
Alors, la façon dont ça s'est passé est effectivement assez drôle. Assez drôle. Et on dit long sur l'ignorance où était l'ensemble des macronistes de ce qu'allait dire Édouard Philippe. Alors, mardi soir, à l'Élysée, il y avait tous les dirigeants proches de Macron, Ferrand, Bayrou, Édouard Philippe, etc., pour un dîner. Et à ce moment-là, Bayrou et Ferrand n'avaient lu que la une de Challenge, et c'est la une de Challenge, c'est alerte. On voit Édouard Philippe et alerte. Mais ils ne savaient pas du tout ce qu'il y avait dans le journal. Ils ne l'ont appris que le lendemain.
Là, je vous ai dit ce qu'il y avait dans l'article.
Et là, le lendemain, c'est apparu. Pour certains, en tout cas, on voit bien pour les plus proches de Macron, c'est apparu comme une attaque. Et moi, j'ai eu certains qui avaient participé au dîner de la veille, dire c'est un scud, c'est un...
Ça en a tout l'air.
Édouard Philippe, au fond, oui, mais il a dit qu'il soutenait. Il abat le camp qu'il soutient, en quelque sorte. Parce que maintenant, on voit très bien quand même sur quoi va porter l'offensive de la gauche. On vous voit venir, la retraite à 67 ans. Or, quel président peut se faire élire sur un programme de 67 ans, la retraite? Donc, c'est un gros coup, je crois, pour que naturellement Macron va minimiser en disant après tout il y a beaucoup de gens dans la maison du père, mais c'est un scud.
Un scud, dit Michel Cotta. Gérard Carrérou.
Oui, je pense que Édouard Philippe a pris date. Il a pris date. Il va soutenir. Il peut pas faire autrement, plus ou moins, que de soutenir Macron. Il l'a donc déjà dit qu'il soutiendrait Macron. Mais en même temps, il pense à Édouard Philippe. C'est-à-dire, il pense à lui-même et à ses perspectives d'après. Et il ne veut pas être enterré sous les gerbes de ce que j'appellerais l'argent magique à la Macron. C'est-à-dire le carnet de chèques ouvert sur tout et partout. Il veut rester dans l'image des gens, alors peut-être pour eux, des entreprises futures, mais il veut rester comme l'homme qui, effectivement, a le sérieux d'une forme d'orthodoxie de gouvernement. Mais c'est à la limite, je voulais dire quand même un mot avant, parce que ça m'embête qu'on ait fait cette émission où on a beaucoup parlé de Zemmour, sans parler des fautes de Zemmour. Et je trouve que ça ne serait pas juste de ne pas dire... Et ce que je voudrais dire en préambule, c'est que Zemmour est dans une vague, une lame de fond. Pourquoi? Parce que même ses erreurs les plus graves devraient lui être préjudiciables, et apparemment elles ne le sont pas. Or, évidemment, il y a celle, je ne reviens pas dessus, Sarkozy l'a très bien dénoncé, celle des enfants juifs massacrés par Merah, qui est enterré en Israël. Ça s'explique et je ne comprends pas qu'il ait osé, là, il a fait une grosse erreur. Et puis même, plus généralement, ressusciter le péténisme, essayer d'expliquer, même si historiquement on peut dire tel ou tel argument, je pense qu'il a fait deux fautes très graves. Je pense qu'il devrait s'excuser pour l'une et en tout cas nuancer sa pensée pour l'autre. Et que malgré ça, ça prouve quand même que la force de la lame de fond, parce que des tas d'autres hommes politiques eussent été disqualifiés par ces erreurs-là.
Y compris lorsqu'il traite Outel Krieff de folle à l'antenne, au fond, ça ne lui nuit pas. Dans d'autres circonstances, ça aurait tout à fait nuit à l'homme politique qui a dit ça. Bon, mais je trouve quand même, tu dis effectivement ces fautes ou ces erreurs. Moi, j'ai peur d'Éric Zemmour et de certaines de ses propositions. Je ne dis pas...
Sur les expulsions, notamment.
Non, sur la guerre civile. C'est-à-dire les 6 millions de musulmans... On ne les mettra pas à l'eau, on ne les renverra pas chez eux.
Oui,
et des idées comme ça, sans qu'on sache finalement quelle est l'issue, c'est une sorte d'appel à la guerre civile. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quand même, où on peut l'attaquer. Moi, je veux bien que le titre de son livre, c'est « La France n'a pas dit son dernier mot ». Mais quand on lit le livre, Oui, la France a dit son dernier mot. Quand on entend Zemmour, oui, la France a dit son dernier mot. Elle est fichue, il n'y a plus rien à faire. Et le côté immigratoire met la France aux abois. Bon, ce n'est pas vrai. C'est
non,
pas
mais
vrai.
Faudra qu'ils aient, mais c'est je pense vrai. Qu'il va le faire dans les 15 ou 3 semaines qui viennent. Il ne peut pas en rester sur la dénonciation. Il va être obligé de donner un programme concernant, effectivement, les étrangers en France, concernant effectivement la façon dont il a traité jusqu'à présent la minorité maghrébine, extrêmement importante, puisque c'est des millions de gens, il va bien falloir qu'il donne des solutions, et on verra quelles sont les solutions. Pour l'instant, il y a une dénonciation.
Pour l'instant, il n'y en a pas. Charles Guilleneuve.
Oui, d'accord. Moi, j'adhère à ce que Gérard dit, simplement sur la France vichyste, sur le fait qu'elle a protégé notamment les Juifs, alors qu'en réalité, elle a, à partir de l'invasion de la zone libre, activé encore plus la déportation des Français de religion juive vers les camps de la mort, avec notamment l'arrivée à la tête de la police de Darnan, il ne faut pas l'oublier, la création de la milice en 1942, et qui a largement aidé la Gestapo et les nazis dans ces déportations. Il ne faut pas oublier que, si vous lisez le livre de Marc Bloch sur la défaite de 40, les trois dernières pages sont occupées par la liste d'un nombre de juifs, de Français, qui appartiennent à finalement à beaucoup de cours constitutionnelles françaises, non seulement ce qui était l'équivalent de la Cour des comptes, mais des médecins de très haut niveau, souvent anciens combattants de 14-18, qui demandent au gouvernement de Pétain, de Philippe Pétain, de les dispenser du port de l'étoile jaune. Il n'y a jamais eu de réponse pour toutes ces autorités, ces personnalités. Jamais aucune réponse. Et donc c'est la preuve même, de toute façon, de l'implication du gouvernement de Vichy dans la persécution, justement, des Français.
Et vous êtes, aussi étonné que Gérard, qu'en avançant ces thèses-là, on a l'impression que ça passe comme si de rien n'était.
Mais je pense qu'on n'en est pas, on n'est pas encore, on n'a pas ouvert le débat réellement, et que
sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'indignation sur les réseaux sociaux.
En face de Zemmour, il faut aller sur les points précis et particuliers dont je viens, si vous voulez, de brosser de manière pas elliptique, mais à peine, si vous voulez, cette situation-là. Aussi bien Gérard que moi, peut-être aussi Michel. Et nous avons beaucoup travaillé là-dessus, en tant que journaliste, mais aussi en tant que passionné de bibliographie, etc. Et on sait que les historiens ont établi des faits sur ce plan-là, et prouvé, de toute façon.
Moi, j'ai fait un documentaire sur Bousquet. Il sera difficile d'expliquer que, effectivement, Bousquet n'a pas... J'ai fait un autre documentaire sur Drancy et le camp de Drancy. J'ai travaillé, j'ai vu des témoignages, j'ai enregistré des témoignages, on voit bien que ce n'est pas suffisant comme explication de dire que les juifs étrangers ont été donnés aux Allemands et que les autres... Non, c'est pas vrai. Donc il y a un moment donné, il faut qu'il arrête. Mais là, il faut qu'il arrête ou qu'il s'excuse.
Mais non, mais dans l'esprit, on voit très bien, dans l'esprit d'Éric Zemmour, au fond, il gomme tout ce qui nuit à une certaine image de la France gaulliste, de la France souveraine, etc. Donc tout ce qui le dérange, il l'enlève. Et notamment sa critique contre Chirac. Et celle-là, elle tourne autour de ça. Il a reconnu les rafles du Veldiv, il s'est excusé. Mmh. Et bien, d'une certaine façon, ça n'est pas l'histoire qu'Éric Zemmour veut entendre. Donc d'une certaine façon... Il réécrit, et aussi, il y en a d'autres qui réécrivent l'histoire dans le style woke, et moi je dirais que Zemmour réécrit l'histoire dans le style anti-woke. Ne tenons pas compte de toutes les erreurs que la France a pu commettre, ne retenons qu'une version idéalisée de la France.
Et Éric Zemmour qui a reçu le soutien de Jean-Marie Le Pen, puisque hier dans Le Monde, Jean-Marie Le Pen disait que si Zemmour était le candidat national le mieux placé devant Marine Le Pen, il voterait pour lui.
Je voudrais revenir sur Édouard Philippe et l'étonnement qu'il provoque, notamment dans la Macronie, que je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, il rappelle les valeurs sur lesquelles il est sorti du gouvernement, et sur lesquels il n'était plus d'accord avec le président de la République. Il ne faut pas l'oublier, notamment sur le plan des retraites. parce que lui rappelle qu'il faut à tout prix rembourser la dette,
oui.
Que c'est essentiel pour l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle...
115% du PIB en ce moment.
Exactement. Alors que l'Allemagne est 73. À 73%. Mmh. Bon. Et il rappelle que de toute façon, la réforme des retraites est essentielle pour travailler plus. Ça fait partie justement du remboursement de la dette. C'est pour ça qu'il monte l'âge limite de 65 ans ou 67 ans, de travailler plus. Donc, on parlait tout à l'heure de l'affaiblissement de la maison où il y a un incendie assez important, celui des Républicains, c'est qu'il crée son propre parti à partir du 9 octobre. Et il y a près d'une quarantaine d'élus, de maires, de députés.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que des gens venant des Républicains vont l'accompagner dans la création de ce parti.
Pour faire quoi ensuite parti.
Si Macron est élu, il va vouloir peser dans la nouvelle majorité.
Voilà. Oui, est-ce que c'est prudent de se dire « j'ai le temps jusqu'en 2027 »
Non, il dit pas qu'il a le temps. Il dit qu'il
ne peut pas en 2022.
Pourquoi il ne peut pas?
Il ne voulait pas être candidat contre Macron,
non, c'est tout.
On est encore à 7 mois de la présidentielle, non?
Oui, non, oui. Mais on en est convaincu.
On n'est pas à l'abri des surprises.
Michel et Charles, on a parlé avec lui de ça il y a quelques mois déjà.
Oui,
on
vous étiez allé au Havre.
On sait très bien qu'il n'ira pas contre Macron, sauf s'il y avait eu des circonstances. Alors, il peut y avoir des circonstances
sauf
dramatiques.
Sauf si Macron était à
elles
10%.
Oui. Si Macron s'est fait effondrer, ou si Macron était victime de je ne sais quoi, on ne peut rien exclure.
Il se positionne pour l'après.
Bon, eh ben nous, on se positionne pour 10h43, juste après la publicité.
Oui, mais Pierre, juste
un mot.
Il se positionne aussi par rapport au prochain mandat, parce qu'il compte peser à l'Assemblée nationale avec son propre parti et ses députés.
La preuve, c'est que des tractations sont en cours sur le nombre de sièges qu'auront les députés d'Édouard Philippe dans la future.
Il fera comme Giscard à l'égard de Pompidou.
Et même les gens disent, il commencera à 100, nous on commence à 20, et ben on finira à 50.
A tout de suite pour les Grandes Voix.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve, l'onde de choc de cette fin de semaine, ça a été donc cette condamnation de Nicolas Sarkozy à un enferme dans l'affaire Big Malion, condamnation à laquelle l'ancien président fait appel, suspend la mesure de bracelet électronique envisagée, humiliation, injustice, Nicolas Sarkozy se dit déterminé, pas plus tard que dans 15 minutes, il sera avenue du Roule à Neuilly-sur-Seine pour dédicacer son livre intitulé Promenade, Sarko et Big Malion, j'allais dire Sarko et la justice, que l'on se place du côté des détracteurs ou des défenseurs, c'est quoi? C'est le remake du film Un jour sans fin, Charles Villeneuve ?
Écoutez, moi je préfère me fixer sur le droit, proprement dit. Et quand vous lisez les attendus du jugement, vous observez qu'il est truffé d'appréciations subjectives. Il n'est pas fondé sur des preuves matérielles objectives, mais sur un raisonnement intellectuel, exprimé d'ailleurs au cours de l'audience par la présidente du tribunal avant même le prononcé du jugement. Rien n'en droit... Lisez les attendus, n'a démontré que Nicolas Sarkozy était au courant du système des fausses factures. Rien, sinon que compte tenu de son expérience politique, il ne pouvait ignorer le dépassement des comptes. C'est en cela que le jugement a une signification plus politique que judiciaire ou juridique. C'est la raison de fond, faut se le rappeler ça, personne ne le souligne, qui a fait que deux des trois magistrats instructeurs, quand instruit l'affaire Big Malion, Renaud Van Ruymbeck et Roger Leloir ont refusé de signer l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy et sa mise en examen. Seul un magistrat, Serge Tournaire, a signé. Et les deux juges Van Ruymbeck et Leloir ne sont pas connus pour être, je les connais très bien tous les deux, ne sont pas connus pour être des amis de Sarkozy.
Gérard Carrérou.
Oui, alors après, je partage à la virgule près tout ce qu'a dit Charles là-dessus. Sur la façon dont on a monté, si vous voulez, d'ailleurs le Fenech, qui est un ancien magistrat, l'explique très bien
Georges
aussi,
Fenech.
Georges Fenech, on a monté une sorte de délit qui n'existe pas dans les faits. Bon, mais ce qui m'importe, moi, comme je ne suis pas un juriste, je vais simplement dire quelques mots sur le plan politique de cette affaire. Les juges ont obtenu ce qu'ils ont cherché depuis 4 ans, depuis 5 ans, c'est-à-dire la tête de Sarkozy, la tête. Au sens figuré, bien sûr, du terme. Mais vous imaginez quand même l'image de la France dans le monde. Un ancien président de la République condamné à de la prison ferme, alors qu'il est un, comme on dit en justice, un délinquant primaire. Il n'a jamais été condamné. Il a été parfois condamné en première instance, mais il n'y a pas eu les appels. Donc, il n'a jamais été condamné. Mmh. Donc, ils ont appliqué la peine prévue, maximale prévue par le code, sauf que, d'habitude, les appréciations vont... Ce n'est pas quelqu'un qui est un récidiviste, c'est quelqu'un qui est un primaire dans ce domaine. Donc, ils auraient dû... Mais ça va au-delà de ça. Profitant, je dirais, d'une phrase... Profitant du système politique ambiant, qui est marqué en France aujourd'hui par un discrédit total de la classe politique. On l'a vu avec les élections, les participations,
on l'a vu,
etc.
avec la mise en examen de Dupond-Moretti et d'Agnès Buzyn.
Exactement, avec Buzyn, etc. Profitant de ça, de ce populisme ambiant, les juges, je mets juge avec un G majuscule, se sentent des ailes. Dans tous les domaines, ils veulent devenir ce qu'ils n'ont jamais été sous la République, c'est-à-dire le premier pouvoir. Non pas une sorte de troisième ou quatrième pouvoir, mais le premier pouvoir, par tous les moyens. Les moyens, ils sont nombreux. Il y a toutes les juridictions de contrôle, du Conseil d'État au Conseil constitutionnel. Il y a toutes les juridictions de nature européenne, la Cour de justice, les cours européennes. Chaque fois... Les juges font bloc contre la volonté populaire telle qu'elle a pu s'exprimer pour les politiques. C'est grave, c'est le gouvernement des juges qui se développe dans notre République. Je pense qu'il faut que les Français y soient très, très attentifs.
Moi, j'ajoute que la notion de peine de prison, même si on dit qu'elle n'est pas applicable et qu'elle est applicable à domicile avec un bracelet, c'est une humiliation. Mais deux, c'est pas approprié, je trouve ça. Personne ne s'en est amené. Je trouve que c'est pas approprié à ce qu'on reproche. Comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un en prison dans cette situation, alors que, au fond, on lui aurait demandé une amende, on lui aurait imposé une amende. Moi, j'aurais trouvé ça tout à fait recevable. Mais la prison n'est pas appropriée à ce type de supposé délit. La prison, c'est pour les violeurs, les récidivistes, c'est pour les attaques sexuelles, les agresseurs sexuels, etc. Mais la prison, mais je pense ça pour tous les délits financiers, en gros, par exemple. Je me suis toujours demandé pourquoi Tapie avait été condamné à la prison. On aurait dû lui prendre de l'argent, son yacht, sa maison. Donc, c'est pas un problème. Et deuxièmement, je trouve quand même aussi que vis-à-vis de l'opinion publique, et justement, parce qu'il y a un discrédit de la classe politique, c'est ajouter un discrédit à un autre. Et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la France.
Souvenez-vous de notre histoire. Après Louis XIV, les parlements d'Ancien Régime ont mené une guerre permanente. Lisez Voltaire, lisez tous les grands auteurs des Lumières. Ils ont mené une guerre incessante contre Louis XV, qu'ils ont affaibli. Le roi bien-aimé est mort, pratiquement détesté. Et ils ont tué Louis XVI. C'est en train... Non, mais je veux dire, ils ont tué Louis XVI. Oui, les parlements n'ont cessé de vouloir prendre le pouvoir. Et attention à notre corps de justice qui maintenant fait la même chose.
Ce qui me paraît plus grave, c'est qu'on est en train de criminaliser l'activité politique. Donc d'encourager la médiocrité, parce que peu iront faire de la politique. Peu de gens de valeur s'engageront en politique.
Correction, c'est le Lamartine du 16e à Paris et non pas celui de Neuilly où la dédicace a lieu dans quelques minutes. On revient dans quelques instants avec les grandes voix.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
À toute vitesse, la dernière partie des grandes voix avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Michel Cotta. Un livre intitulé Le dernier secret. Non, c'est pas le dernier Christian Jacques sur Toutankhamon. Il est signé Solène de Royer chez Grasset. Et c'est l'histoire vraie de Claire, dernier amour de François Mitterrand au tout début des années 90, Michel Cotta.
Oui, effectivement. Donc, un dernier amour. Une jeune fille qui tombe amoureuse de Mitterrand, qui se met sur son passage un nombre de fois incalculable. Et puis finalement, comme Mitterrand aime plutôt les jeunes femmes, il finit par la remarquer. Et donc, elle débarque à l'Élysée. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre eux. Je ne mets pas en cause naturellement.
Quand on lit les bonnes feuilles, on commence à savoir ce qui s'est passé.
Enfin, oui, dans une époque où François Mitterrand était quand même relativement malade. Mais enfin, je suis presque admirée. admirative. Hein. Oui. Je suis presque admirative. Premièrement, ça appartient à une époque qui n'existe plus, on est d'accord. On pourrait pas, le président de la République ne pourrait pas faire ça. Mais deuxièmement, j'arrive même pas à comprendre comment il pouvait écrire 1000 lettres, plus de 1000 lettres à Anne Pinjot,
oui, Anne Pinjot.
La femme,
la mère femme de Mazarine,
finalement, qu'il a quand même préféré dans sa vie. Comment il pouvait à la fois recevoir Marie de Henzel en même temps, sans arrêt, et comment il pouvait en plus...
Dis qui c'est Marie de Henzel.
Alors, Marie de Henzel est quelqu'un qui s'est lié à ses soins palliatifs, en quelque sorte, qu'il a accompagné dans tous les soins palliatifs. Mm. Et comment, en plus, il avait le temps de téléphoner tous les jours, à 8h du matin, pour réveiller cette jeune Claire, et à 10h30 du soir, pour lui dire au revoir.
Oui. On a retrouvé les bandes téléphoniques du répondeur de Claire avec justement ces mots.
Oui, mais c'est Jolène Doroyer. En plus, Jolène Doroyer est une journaliste très, très sérieuse. Mais enfin, moi, je ne sais pas, messieurs, est-ce qu'on peut vous souhaiter la même chose ?
C'est le privilège des grands hommes.
Oui, non, mais moi, je crois qu'il est à...
Charles Villeneuve.
Il est à l'égal l'un de ses amis les plus sérieux, son ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. qui a la même nature et qui aime beaucoup évidemment les femmes, etc., qui s'en occupe, qui il a plus de 90 ans aujourd'hui.
Il leur téléphone, qu'on salue d'ailleurs.
C'est comme ça, jusqu'au bout.
C'est le dernier secret et c'est à lire chez Grasset. Merci les grandes voix et bonjour à vous Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Restez là, hein, ça devrait vous plaire aussi aujourd'hui, puisque nous allons aller récolter des amandes dans l'Luberon et puis surtout, on va passer en revue un traité de pâtisserie avec Guy Krenzer, le chef exécutif de la Maison Le Nôtre, et puis Barbara Pravi, la chanteuse bonne vivante, sera avec nous. On vous attend.
Bon appétit, merci Laurent.